Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Bonsoir, et si on en parlait avec vous, François-Xavier de Calonne, notre invité, le député de la Meuse, Bertrand Pancher, coprésident du groupe Libertés et Territoires, une émission notamment consacrée au second tour des élections municipales, mais aussi aux récentes manifestations sociales et sociétales et à la crise sanitaire en France. Dans la deuxième partie de cette émission, nous ferons le point avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, notre partenaire. Bertrand Pancher, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez sur votre site internet « Carnet d'un député au temps du coronavirus » ou « La chronique d'une crise anachronique » et vous déplorez notamment, Bertrand Pancher, une absence d'union nationale au cours de cette crise qui n'est pas terminée aujourd'hui en France.
Oui, alors je déplore une absence d'unité nationale, même si il y avait une réelle volonté mon sens de vouloir tous travailler en commun dans le cadre du début de la crise, mais je dénonce surtout une absence d'anticipation, une absence de concertation et de transparence. Moi, je suis un député au cœur de la crise. Je rappelle que je suis député du département de la Meuse, dans le Grand Est, plus de 200 000 habitants, mais plus d'une centaine de décès en hôpital, une petite centaine dans des EHPAD. J'ai été membre de la mission d'information sur le coronavirus et j'ai essayé de faire remonter les demandes de mes concitoyens qui se sont souvent sentis délaissés. J'ai fait des propositions pour une révolution girondine de façon à donner davantage de pouvoir aux élus locaux et aux nos concitoyens pour en finir à cette forme de bureaucratisation et pour éviter les prochaines crises. Et je suis maintenant membre de la commission d'enquête où j'espère vraiment avoir des réponses que je n'ai pas eues lors de la mission d'information sur le coronavirus.
Nous allons y revenir bien entendu sur cette commission d'enquête parlementaire, mais nos voisins européens n'ont-ils pas eux aussi été pris de court par cette crise sanitaire inédite ?
Non, mais on a tous été pris de court. Il y a des pays qui l'ont beaucoup plus anticipé que le nôtre. Moi, je suis proche de l'Allemagne. Comment pas être frappé par vraiment cette différence complète de moyens en Allemagne, les masques, les tests, et puis cette réactivité plus rapide. Et notre pays où, on a le sentiment que l'épidémie se propage et au début que le gouvernement quand même a la tête ailleurs. Je rappelle quand même que la mise en quarantaine est généralisée à Wuhan en Chine à partir du 24 janvier. On y a un consul sur place, on rapatrie 300 Français au mois de janvier nous séparons d'Agnès Buzyn le 17 février. Conseil des ministres le 29 est consacré à la réforme des retraites on installe très rapidement un conseil scientifique qui sonne l'alarme, relayé par la voix du président de la République le 12 mars. Le conseil scientifique s'est réuni que deux jours auparavant. Et on aborde cette crise sans protection, puisque on n'a pas de masque. Beaucoup de masques en stock ont été détruits. Il y a une angoisse de nos concitoyens. On manque de tout, tests, masques, blouses. Et on a l'impression que le gouvernement marche un peu comme un poulet sans tête à l'origine de cette crise. Bon, c'est vrai que tous les pays ont été touchés par cette vague importante, mais enfin quand même, par le biais du Parlement et de cette mission d'information maintenant commission d'enquête, il faut vraiment qu'on puisse donner toutes les informations au public concerné, dont certains ont été vraiment touchés dans leur famille par cette crise sanitaire. On précise pourquoi il y a eu un manque aussi important d'informations, de transparence d'informations, qu'est-ce qu'on peut faire pour demain, d'abord peut-être éviter la deuxième vague qu'on annonce peut-être, et puis éviter les autres crises.
Cette commission d'enquête parlementaire dont vous êtes membre a entamé la semaine dernière ses premières auditions à l'Assemblée nationale. Quel premier bilan faites-vous de ces auditions ?
Et nous avons commencé par auditionner les hauts fonctionnaires, les directeurs de la santé au ministère, c'est-à-dire le fonctionnaire le plus important, les directeur de France Santé, qui est l'organisation qui est en charge d'acheter le matériel et de pouvoir disposer des moyens pour éviter les crises de ce type. C'est exactement Santé Publique France. Santé Publique France est l'organisation qui est en charge de stocker le matériel, d'avoir du matériel en réserve pour éviter des grandes crises sanitaires. Donc nous avons interrogé les directeurs successifs de Santé Publique France. On leur a demandé où on était le stock de masques il y a quelques années et où on en était en début de crise. Et puis nous avons auditionné les directeurs de la santé au ministère de la Santé. Et première révélation, on se rend compte que juste avant la crise 2018, 2017-2018, on est encore à 750 000, 1 million, 1 milliard de masques. Une étude sanitaire, on considère que il y a 600 millions de masques qui sont à détruire parce qu'ils sont pas aux normes. On détruit ces masques. L'ancien directeur de Santé Publique France alarme le gouvernement en expliquant que on est désarmé. Et on a besoin de racheter des stocks de masques. On n'en commande que 100 millions, par deux, une commande de 50 et une commande de 100. Et donc on arrive en début de crise avec seulement 150 millions de masques. Il y a eu vraiment un défaut dans le cadre des politiques de prévention notre pays. À défaut d'en connaître les responsabilités, on veut vraiment savoir où on est, comment où on est l'origine. Parce que si nous avions eu des masques en nombre suffisant, on aurait pu faire en sorte que les professionnels de santé, les gens qui sont en deuxième ligne pour faire fonctionner les commerces, qui vont voir les personnes âgées, enfin, toutes ces personnes puissent être protégées. Donc ça, c'est réellement un des premiers enseignements de cette commission d'enquête. On va poursuivre avec les auditions des ministres concernés. Pourquoi, quand Santé Publique France a demandé qu'on rachète des masques, pourquoi ne l'avons-nous pas fait?
Et aujourd'hui, donc, vous recherchez les responsables, hein, c'est notamment la mission de cette commission d'enquête parlementaire. Vous l'avez dit, votre département de la Meuse a été particulièrement touché. Comment vous avez observé la gestion de cette crise sanitaire depuis votre circonscription?
Les appels de toutes parts, Moi, je le raconte dans mon ouvrage, j'ai pratiquement passé 500 coups de fil chez les élus locaux, les directeurs des EHPAD, des maisons de santé, chez les infirmiers, chez les médecins, chez les ambulanciers, les taxis, chez les associations d'aide à domicile. Dans les premières semaines, c'est une panique généralisée, c'est-à-dire que on a besoin d'être protégé, on n'a pas de masque, dans les EHPAD, on n'a pas de surblouse, on n'a pas de gants, et je découvre de façon assez médusée ces absences réellement de matériel de protection, et je découvre également à travers toutes les chaînes d'information, toutes les annonces sur les commandes de masques, 200 millions, 250 millions début mars, 1 milliard, je crois qu'on arrive à plus de 2 milliards, 500 millions de masques fin mars. Bon, on commande les masques, on ne voit pas les masques arriver. C'est vraiment la débrouillardise. Et puis, les plus malins réussissent à trouver des masques ailleurs. Il y a encore, la semaine dernière, je rentre dans un taxi parisien, je dis, comment vous avez fait? Oui, on s'est mis à plusieurs, on est allé chercher directement les masques en Allemagne, parce qu'il y avait des masques en Allemagne.
Et vous saluez également l'action des élus locaux, ces élus qui font partie des personnes qui ont été en première ligne durant cette crise sanitaire.
Oui, en première ligne, d'ailleurs parfois eux-mêmes touchés, puisque je rappelle qu'on maintient le premier tour des élections municipales. C'était une erreur de le faire, je m'étais d'ailleurs prononcé contre ce premier tour, parce qu'on voyait très très bien que ce deuxième tour n'allait pas pouvoir se tenir aussitôt, et y compris lors de dépouillements, des maires qui se retombent malades, qui sont secoués, des conseillers municipaux, enfin, et ces maires qui sont en première ligne pour aller aider leur population. Les collectivités territoriales ont été beaucoup, beaucoup plus agiles que l'État. D'ailleurs, la raison pour laquelle je propose, parmi les nombreuses propositions, une révolution girondine, c'est-à-dire un choc de décentralisation.
Le deuxième tour des municipales est donc prévu pour dimanche prochain. Cette crise sanitaire aura-t-elle, selon vous, un impact sur le résultat de ces élections locales?
Alors, je pense que la crise sanitaire va consolider les maires sortants qui ont bien fait leur travail parce que les populations se sont rendues compte que les maires étaient vraiment au charbon pendant la crise. Je pense qu'il va y avoir un effet vraisemblablement de consolidation des maires sortants. Ça pourrait être aussi un des premiers enseignements de cette crise.
Les Verts sont en tête dans de grandes métropoles. Comment est-ce que vous comprenez cette progression d'Europe Écologie Les Verts?
Parce que l'environnement, c'est la crise qui est devant nous, qui au moins est une crise prévisible. Autant la crise sanitaire le Covid était peut-être difficilement prévisible, au moins celle-là est devant nous. Bon, et comment pas être frappé par le réchauffement climatique, les conséquences en termes de migration, le coût que tout ça va engendrer, et ces jeunes générations qui sont angoissées sur cette capacité que nous avons à gérer cette crise environnementale dans un contexte où personne n'atteint ses objectifs environnementaux, à commencer par la France. On a signé les accords de Paris, on est à la moitié de nos objectifs chaque année dans le cadre de l'atténuation du réchauffement climatique. Donc il faut aller plus vite, plus loin, et dans les communes, il y a beaucoup d'actions en matière environnementale à mettre en place. Et c'est la raison de la bonne tenue, la bonne tenue des Verts, qui représente aussi souvent des alternatives en termes de développement humain.
Et vous jugez comment la gestion des villes qui sont aujourd'hui administrées par Europe Écologie Les Verts, comme par exemple la ville de Grenoble?
La ville de Grenoble, je trouve que je connais bien le maire Éric Piolle, même si je ne suis pas dans sa formation politique. Moi, je suis un élu centriste, radical, très engagé dans l'environnement. J'ai vu les efforts de métamorphose de la ville, notamment en termes de transport d'eau, en termes de démocratie participative. C'est un maire qui était assez raillé par l'opposition, et finalement, des concitoyens qui disent, certes, il y a beaucoup de travaux, c'est compliqué, on est gêné, mais comment la ville change, il y a beaucoup d'écoute, son résultat ne me surprend pas.
Sur cette crise sanitaire qui perdure aujourd'hui en France, il est important de le souligner, est-ce que vous constatez une forme de relâchement de la part de la population, notamment sur les mesures de distanciation?
Oui, il y aura tout à fait. À la fois dans mon département, moi je fais mes courses le week-end, je vois qu'on porte nettement moins le masque quand on fait ses courses dans la grande distribution, on les porte quand même dans le commerce local. Dans mon département rural, on observe assez facilement les gestes barrières parce que le département est petit, parce que le préfet, l'État sont tout le monde est réactif, mais les gens me disent comment tolérer des grands rassemblements comme il y a eu à Paris, notamment dans le cadre de la fête de la musique. Et quand on voit les foyers d'infection qui redéveloppent, et notamment en Allemagne, je vous rappelle qu'on vient de ces derniers jours de reconfiner plus de 300 000 personnes en Allemagne, on voit la progression du Covid dans les pays du Sud, notamment Brésil, Amérique du Sud, on se dit qu'il y a un développement assez saisonnier de la maladie avec peut-être une deuxième vague. Il faut quand même faire très très attention de ne pas à nouveau engendrer de la contamination. Donc je pense qu'on ne fait pas assez attention.
Vous évoquez cette fête de la musique dimanche dernier. Il y a aussi eu des manifestations, la manifestation des soignants, les manifestations contre le racisme qui ont rassemblé beaucoup de monde. Est-ce raisonnable aujourd'hui de se rassembler en masse, quelle que soit la pertinence de la cause défendue?
Moi je pense qu'on peut manifester, mais manifestons avec un minimum de gestes barrières. On peut manifester avec des masques. On n'est pas obligé tous d'être les uns contre les autres. Parmi l'enseignement de la crise, cette nécessité de respecter les gestes barrières. On a au moins maintenant des moyens, puisque le matériel arrive. On ne peut pas dire qu'on soit dans une période de pénurie de masques, de pénurie de gel. En plus, on peut tester maintenant assez facilement les foyers d'infection. Je pense qu'il faut réellement que tout le monde soit raisonnable. On a besoin de s'exprimer. Une démocratie, elle est vivante si on respecte, on accepte, et toute forme de manifestation et de protestation, il est important que ces manifestations manifestation ait lieu, mais avec un minimum de gestes barrières, et faisons quand même très très attention, parce que je crois vraiment qu'une deuxième vague va à nouveau se produire dans notre pays.
Bertrand Pancher, vous faites partie des députés qui militent pour la régularisation des personnes sans papier aujourd'hui en France. Ces personnes sans papier qui se sont montrées indispensables pendant la crise sanitaire, du moins une partie importante d'entre elles.
Qu'est-ce que je constate ? Je constate que en France, comme dans tous les pays où le coronavirus a sévi, ce sont les personnes les plus fragiles qui sont touchées et qui sont en première ligne. Aux États-Unis, c'est les Noirs. Eh bien, en France, c'est les quartiers sensibles, c'est les migrants, les personnes qui ont peu de moyens. Il y a des conditions de logement. On s'occupe pas d'elles. Vous rajoutez notamment pour les migrants pas l'impossibilité de subsister, parce que les migrants réussissaient quand même à travailler. Bon, et ne pouvaient plus sortir. Et moi, j'ai découvert quand même des misères que je ne connaissais pas. J'ai toujours considéré que les migrants qui étaient dans notre pays depuis longtemps et qui ne pouvaient pas, qui ne repartiraient jamais chez eux, parce qu'on sait comment ça se passe quand on a des enfants qui sont nés en France, quand on est intégré, on n'expulse pas. Je peux considérer que ces personnes-là avaient des vocations à travailler, parce qu'elles demandent qu'à travailler, à être insérées. La crise nous a démontré la nécessité de le faire beaucoup, beaucoup plus rapidement. Est-ce que vous trouvez normal qu'on regroupe encore des migrants dans des centres de rétention administrative où la maladie se propageait, alors qu'on savait qu'on n'expulserait jamais personne pendant la crise? Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des métiers vraiment en tension pendant la crise? Moi, je suis près du vignoble champenois, on avait besoin de tailler des vignes, on n'avait plus personne pour tailler les vignes, je crois que c'est 150 000 travailleurs saisonniers. Bon, il y a des migrants qui sont là, qui demandent qu'à travailler, et on ne les fait pas travailler, quoi. C'est aberrant sur le plan économique, c'est complètement inhumain. Moi, pendant la crise, j'ai recensé entre 700 à 800, tenez-vous bien, témoignages de migrants individuels. Au début, je me suis dit, c'est des copier-coller sur mon Facebook. Mais non, c'était pas des copier-coller, c'était des vrais gens qui parlaient, qui expliquaient qu'ils pouvaient pas sortir, que la maladie se propageait plus chez eux, qu'il y avait en plus la peur, des absences de nourriture, de la violence. Tout ça est complètement scandaleux. On a un pays, une grande démocratie, se doit de traiter humainement les personnes qui sont sur leur territoire. Ce n'est pas le cas dans notre pays. Et donc moi je réclame vraiment qu'on puisse régulariser toutes les personnes qui sont là depuis, au moins depuis 3-4 ans dans notre pays, parce qu'on sait très bien qu'on les expulsera jamais, c'est une aberration, et puis qu'on donne la possibilité à ceux qui viennent d'arriver et qui sont dans l'attente de leur régularisation ou pas, qu'on leur donne la possibilité de travailler.
Donc il y a un travail pédagogique très important, il faut expliquer la pertinence d'une telle mesure qui risquerait d'être mal comprise par une partie de la population sans cette explication.
Mais sur le plan sanitaire, la maladie se propage beaucoup plus chez des personnes qui ne peuvent pas se faire soigner, qui ne sont pas suivies, et puis qui vivent en groupe, et après, ça se propage. Deux, sur le plan économique, c'est de la folie. Ces gens demandent qu'à travailler, mais ils demandent qu'à travailler, quoi, à payer des impôts. Je ne comprends pas pourquoi on ne leur donne pas la possibilité de travailler légalement. Là, on les conduit à travailler au noir. C'est pas un modèle de société que je développe, que je soutiens. Et puis sur le plan, sur le plan humain, on est un pays de valeurs. La liberté, c'est très bien. On est libre et égaux en droit. Et il y a aussi l'égalité, la fraternité, frères et sœurs d'un même et beau pays, la France.
Merci, Bertrand Pancher, député de la Meuse.
Merci beaucoup à vous.
Co-président du groupe Libertés et Territoires à l'Assemblée nationale. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la deuxième partie de Et si on en parlait avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et Bertrand Pancher, je rappelle que vous publiez sur votre site internet Carnet d'un député au temps du coronavirus ou la chronique d'une crise anachronique.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Seconde partie de « Et si on en parlait ?». Il y a quelques instants, nous avons reçu le député de la Meuse, Bertrand Pancher, coprésident du groupe Libertés et Territoires. Nous sommes maintenant en compagnie d'Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, notre partenaire. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir.
Vous avez écouté le député Bertrand Pancher. Les élus locaux ont souvent été en première ligne durant cette crise sanitaire. Arnaud, est-ce que cela a changé le regard des Français sur leurs maires, les maires qui faisaient déjà partie des élus les mieux appréciés en France?
Oui, vous l'avez rappelé, le maire est un des rares personnages politiques qui échappe aujourd'hui à la défiance généralisée qui touche une grande partie des responsables politiques. Les raisons pour lesquelles un maire aujourd'hui bénéficie, disons, d'une forme de soutien de l'opinion publique sont liées aussi au fait qu'il est peut-être l'un des derniers politiques à avoir des capacités d'agir de manière très concrète dans la vie quotidienne de ses administrés. Donc on reconnaît in fine dans le maire cette capacité, cette disposition à avoir des marges de manœuvre pour pouvoir tout simplement améliorer la vie de ses concitoyens. C'est, je crois, lié ce soutien au maire, au-delà de la crise sanitaire à laquelle nous avons assisté, au fait que le maire est encore en capacité d'agir, ce qui n'est pas le cas hein, aujourd'hui de nombreux responsables politiques, en tout cas dans la perception que s'en font les Françaises et les Français. Mais il est clair que la crise que nous avons traversée a ramené encore plus au premier plan les élus locaux. Vous parlez des maires, mais n'oubliez pas aussi le rôle d'un certain nombre de présidents de régions qui ont été largement exposés, qui se sont largement exposés durant cette gestion de la crise sanitaire, au moment où l'État semblait parfois en difficulté, où surtout l'État ne paraissait pas en mesure de répondre avec la vélocité suffisante aux besoins urgents que faisait vivre cette crise.
Ils ont compensé des lacunes?
Oui, indéniablement. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord compensé des lacunes en matière de communication. Il faut être clair, c'est que le langage des élus, et notamment des élus régionaux, des présidents de conseils régionaux, mais également d'un certain nombre de maires, était un langage concret, un langage de vérité, un langage qui relayait aussi les inquiétudes de l'opinion publique, qui était moins contraint par la parole officielle qui était celle de l'État et des administrations centrales. Donc déjà, sur le plan de l'expression publique, ils ont d'une certaine façon été plus à l'aise, plus libres, et ont récemment plus rencontré les aspirations et les attentes des Françaises et des Français dans cette situation particulière. Et puis surtout, ils ont été sur le terrain. Souvenez-vous, au moment de la polémique sur les masques, ils ont essayé de récupérer des masques, essayé de disposer de moyens que l'État n'était pas en mesure d'apporter de manière rapide. Donc on a vu des élus régionaux qui ont souvent, en effet, pallié à ce qui apparaissait comme une déficience générale de l'organisation de l'État.
Arnaud Benedetti, nous sommes revenus avec le député Bertrand Pancher sur l'enjeu des municipales de dimanche prochain et sur cette poussée d'Europe Écologie Les Verts, leur performance lors de ce premier tour. Comment vous pouvez expliquer cette performance, notamment dans de grandes métropoles?
Oui, vous avez raison de souligner, c'est-à-dire que la poussée verte, c'est une poussée qui correspond à une sociologie électorale, qui est une sociologie électorale importante, mais qui quand même est spécifique, c'est-à-dire celle des très grandes métropoles. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point qui me paraît important de souligner, c'est que les scrutins municipaux, maintenant depuis un certain nombre de scrutins de cet ordre, sont des scrutins qui sont assez favorables à l'implantation électorale des Verts, parce que les Verts, finalement, ont des offres de programme qui sont des offres de programme très concrètes. Donc ils parlent, ce sont des offres de programme qui parlent aux électrices et aux électeurs. En tout cas, cas dans les zones où ils sont en tout cas en progression. Le troisième point, c'est que il y a aujourd'hui c'est lié d'ailleurs à la crise, hein, je pense que la crise sanitaire va peut-être renforcer cette dynamique électorale des Verts. On sait très bien que cette crise sanitaire, elle est liée aussi, pas seulement, mais entre autres aussi à des facteurs environnementaux. La déforestation étant aussi un processus dont on sait très bien qu'il accélère la prolifération des virus. Donc cette thématique-là peut jouer encore une fois en faveur des Verts. Le quatrième point qui est important, qui est la plus politique, enfin plus politique au sens du rapport de force politique, c'est que cette poussée des Verts, elle se fait aussi sur l'affaiblissement de la gauche social-démocrate, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les difficultés qui sont celles, hein, pour aller vite, du Parti socialiste, eh bien, renforcent presque mécaniquement l'écologie, les Verts et Europe Écologie, qui deviennent une force alternative pour représenter une partie de la gauche dans un certain nombre de scrutins.
Vous avez entendu Bertrand Pancher qui nous disait que la crise sanitaire n'était pas prévisible, mais que la crise climatique l'est et que cela peut expliquer cette montée d'Europe Écologie Les Verts.
La question du dérèglement climatique est une question qui est récurrente et qui fait partie des sujets qui sont portés et qu'ont préempté les Verts, puisqu'ils ont été là, d'une certaine façon, lanceurs d'alerte. En tout cas, ils apparaissent comme lanceurs d'alerte dans l'opinion publique et qu'il y a, disons, des segments de l'opinion, notamment parmi les plus jeunes, qui sont extrêmement sensibles à cette question et qui souhaitent que des mesures très concrètes et urgentes soient prises. Donc on peut là aussi imaginer que ce sujet est un sujet qui explique aujourd'hui la progression du vote vert. Mais la progression du vote vert, c'est quand même une progression qu'il faut, disons, indexer à un certain nombre de facteurs qui sont multiples et qui ne sont pas seulement liés à la question du dérèglement climatique, même si la question du dérèglement climatique indéniablement constitue un élément important aujourd'hui de l'offre politique des Verts, enfin, la lutte contre le dérèglement climatique.
La crise sanitaire que l'on vit aujourd'hui toujours en France peut-elle également engendrer des réflexes conservateurs et finalement favoriser les sortants?
Oui, alors c'est une lecture qui a été faite à plusieurs reprises, hein, par nombre de commentateurs et d'observateurs, selon laquelle l'action des maires durant la crise sanitaire et durant finalement cette suspension du temps électoral, puisque le second tour arrive largement en décalé par rapport au premier tour, 3 mois après, peut favoriser en effet les maires sortants qui ont été tout simplement confrontés dans cette crise à l'exercice de leurs tâches quotidiennes et donc mécaniquement se sont retrouvés dans une position de proximité avec leurs administrés. Mais on avait déjà vu quand même à l'occasion du premier tour que les maires sortants, nonobstant cette question de la crise sanitaire, étaient déjà, pour un certain nombre d'entre eux, sortis très renforcés du premier tour. Il y a une tendance aujourd'hui à une recherche de stabilité. Si vous voulez, je pense que le fait que le champ politique national a été tellement bousculé ces dernières années, notamment par la victoire quand même surprise de La République En Marche, et puis par l'accession aussi au second tour de cette élection présidentielle de Marine Le Pen, que peut-être s'exprime au niveau local un besoin de stabilité qui serait exprimé par le corps électoral, et ce besoin de stabilité, il trouverait dans la reconduction d'un certain nombre de maires sortants non négligeable sa traduction.
Nous sommes revenus avec le député Bertrand Pancher sur la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire. Les auditions ont démarré à l'Assemblée nationale. Vous portez quel regard sur le rôle de cette commission?
C'est en tout cas un élément absolument essentiel pour faire un retour d'expérience d'abord, pour comprendre ce qui n'a pas marché, pour comprendre ce qui a dysfonctionné, et pour évidemment aider à ce que pour de prochaines crises de ce type, nous soyons en mesure justement de corriger les erreurs qui ont été commises ou les manques qui sont apparus parfois de manière très cruelle dans la gestion de la crise. Donc cette commission d'enquête parlementaire, elle a d'abord d'abord une première mission, c'est d'établir les raisons des différents dysfonctionnements afin justement de progresser dans la maîtrise et le contrôle de la gestion de crise future. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point, évidemment, il y a aussi qui sont pour mission d'essayer de comprendre quelles sont les échelles de responsabilité. En politique, il est très important de faire face à ces responsabilités et on peut imaginer que les parlementaires essaieront de comprendre justement quelles sont dans la chaîne de décision les paliers qui ont à un moment donné été plus faibles que d'autres et on imagine qu'un certain nombre de questions, elles ont déjà été posées, seront posées par les parlementaires aux différentes personnalités qu'ils auditionneront, sachant que on voit bien que depuis maintenant le déconfinement, il y a un discours qui, au niveau des pouvoirs publics, a tendance à se développer, c'est-à-dire à considérer que finalement le système hospitalier a tenu bon, que le système de santé a tenu bon, que finalement l'État a agi comme il fallait dans cette affaire, sauf que il faut quand même noter que la France est un des pays dont la mortalité rapportée à la population est quand même une des plus fortes. On est sur des échelles qui sont celles de l'Espagne et de l'Italie, hein, à peu près, à peu de chance près. D'ailleurs, je note au passage que nous n'avons toujours pas le chiffre des décès en médecine de ville. Aujourd'hui, il faut quand même considérer que malgré ce discours des pouvoirs publics, le système de santé, le système hospitalier français a été particulièrement bousculé dans cette crise.
Comment fonctionne une commission d'enquête parlementaire ?
Elle établit des listes de personnalités qu'elle va auditionner. Elle les auditionne, elle remet un rapport et puis elle peut, si elle considère que des fautes de nature pénale ont été commises, transmettre au procureur de la République un certain nombre d'éléments pour que éventuellement la justice fasse son travail.
Arnaud Benedetti, Bertrand Pancher déplore un relâchement de la part des Français sur les gestes barrières, ce que déplorent également de nombreux médecins aujourd'hui. Vous partagez ce constat, comment le comprenez-vous et l'exécutif doit-il avoir un rôle de sensibilisation plus important aujourd'hui ?
Il y a un besoin d'interaction sociale que le confinement avait interrompu, qui s'exprime, on l'a vu, lors de la fête de la musique, notamment parmi les populations les plus jeunes. Il y a des besoins économiques aussi qui font qu'il faut absolument que la société redémarre, que la machine économique redémarre, parce que les conséquences économiques et sociales du confinement risquent, et même parfois pathologiques, du confinement risquent d'être parfois autrement plus grave que la seule crise sanitaire. En même temps, il faut en effet assortir ce processus de déconfinement d'un discours qui rappelle de manière didactique, pédagogique, systématique, la nécessité d'être extrêmement vigilant, de maintenir les gestes barrières, d'autant plus qu'on voit que chez nos voisins allemands, par exemple, on est en train de reconfiner un certain nombre de zones géographiques parce qu'il y a une reprise de l'épidémie dans un certain nombre de Länder. Donc il faut être en effet à la fois à concilier un discours qui soit un discours qui permette à la société de redémarrer, mais également un discours qui soit un discours de prudence et de très grande vigilance.
Et ce discours de prudence et de très grande vigilance, vous l'entendez aujourd'hui ?
Il existe, les autorités sanitaires, le Premier ministre, le ministre de la Santé, régulièrement rappellent que le virus circule encore. La vérité, c'est que dans le même temps, vous avez une société qui se déconfine et qu'il y a une difficulté à ce que ce discours soit audible parce que tout simplement la société est en train de, j'allais dire, refonctionner au quotidien et de retrouver son rythme de vie qui était le rythme de vie qui précédait le confinement. Donc les beaux jours arrivent. les gens veulent sortir, les opérateurs économiques, notamment ceux du divertissement, ceux de la restauration, ceux du des cafés, souhaitent pouvoir retrouver une activité économique qui leur permette de reprendre leur marche. Donc c'est très compliqué, mais encore une fois, c'est la responsabilité des autorités politiques, des autorités sanitaires d'avoir un discours qui soit adapté à la situation.
Un autre sujet abordé avec le député Bertrand Pancher, la régularisation des personnes sans papier en France. Plusieurs dizaines de députés demandent cette régularisation. Comment avez-vous apprécié les arguments de Bertrand Pancher qui, lui aussi, milite pour cette régularisation?
Bon, si vous voulez, c'est des arguments qui, sur un plan humain, peuvent se comprendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il existe deux verrous qui sont essentiels au développement de cette thèse, et vous l'avez d'ailleurs, je crois, rappelé, c'est que le premier verrou, c'est celui de l'opinion publique. On a une opinion publique qui est aujourd'hui plutôt réservée quant à une régularisation massive des sans-papiers, donc c'est toujours extrêmement difficile dans un contexte où nous avons une société qui est d'ailleurs au demeurant de plus en plus éruptive, de plus en plus fractionnée, de plus en plus archipélisé, comme l'a écrit Jérôme Fourquet dans son très bel ouvrage, de prendre des mesures qui vont à l'encontre de segments importants de l'opinion publique. Donc déjà, il y a ce verrou qui est un verrou que je qualifierais quasiment de sociologique en l'occurrence. Le deuxième aspect, c'est le message qui est envoyé. Donc il est évident que la régularisation est... risque d'être considéré comme un appel d'air supplémentaire en matière d'immigration. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur un sujet qui est totalement miné aujourd'hui au regard à la fois de l'état de l'opinion et au regard aussi des capacités, il faut quand même le dire, d'assimilation et d'intégration des pouvoirs publics et de la société française qui ne sont plus celles, il faut le dire, qui furent celles de la société française des années 60 et des années 70. On est arrivé à un niveau de tension dans ce pays qui est aujourd'hui un niveau de tension qui fait que sur ce type de sujet, la prudence s'impose.
Arnaud Benedetti, le résultat des élections municipales dimanche prochain aura bien entendu un impact sur le prochain remaniement, sur l'éventuel remaniement à venir.
Oui, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, suite aux conséquences de la crise, l'exécutif est confronté à un vrai défi politique en matière de politique économique et de politique sociale. Comment va se traduire dans les équilibres internes à la majorité cette prise en compte cette nouvelle donne? Bon, la question du maintien aujourd'hui d'Edouard Philippe est posée, mais c'est un Premier ministre qui est un Premier ministre populaire, beaucoup plus populaire que le Président de la République, et qui constitue un môle de stabilité dans une majorité qui est aujourd'hui traversée par des fractures et des divisions. Un changement de Premier ministre signifierait-il un changement de cap politique? En tout cas, c'est le signal qui est donné lorsqu'on change de Premier ministre, il faut changer de cap politique. Donc on aura une réponse très rapidement, on l'imagine, après les élections municipales.
Merci Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, notre partenaire. C'est la fin de Si on en parlait sur votre radio, Radio Orient. Passez une excellente soirée.
Et si on en parlait? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.